parti. Bonne soirée. Et cours! Wow!
Le hockey vous manque? Envie d'avoir des nouvelles de la LNH? C'est prolongation. Tout ce qui touche le hockey, de près ou de loin. Avec Martin McGuire et Danny Dubé. Au 98.5.
Bon samedi après-midi, mesdames, messieurs. La plus cordiale des bienvenues à cette deuxième édition de prolongation, samedi le 10 octobre. Et ça se poursuit pour le marché des joueurs autonomes sans restriction dans la Ligue nationale. Notre menu d'émission est fort chargé puisqu'on va revenir sur le repêchage de la Ligue nationale qui a eu lieu mardi et mercredi dernier et tout ce qui en a évidemment découlé. Cette controverse, appelons-le comme ça, controverse suite au fait que le Canadien avait terminé ses deux journées de travail au repêchage sans sélectionner de joueurs dans la LHJMQ ni de joueurs québécois. J'accueille tout de suite celui qui est avec moi, bien sûr, pour cette émission et pour tous les matchs de hockey, Danny Dubé. Bonjour, Danny.
Salut, Martin.
Alors, Danny, on a eu un 24 heures assez mouvementé dans le marché des joueurs autonomes. Ça se continue d'ailleurs aujourd'hui. Je veux juste prendre le temps, là, avant d'ouvrir avec toi, de donner une mise à jour pour nos auditeurs, là. Il y a quand même des contrats qui se sont ajoutés aujourd'hui dans la LNH. Les Oilers d'Edmonton ne sont pas dus pour faire des changements devant le filet parce que ils ont tenté de le faire. Ça n'a pas fonctionné. Alors, on a ramené Mike Smith, qui est encore la solution de rechange. Il a signé un contrat d'un an pour 2 millions de dollars. Parmi les ententes qui ont été conclues aujourd'hui, le vénérable capitaine du Wild du Minnesota, Mikko Koivu, qui est en fin de carrière, ira poursuivre sa carrière, du moins pour un an supplémentaire avec les Blue Jackets de Columbus. Koivu s'est entendu sur les termes d'un contrat d'un an pour 1,5 million. Il y a le gardien Tomáš Greiss qui est maintenant avec les Red Wings de Détroit. Il a signé un contrat de 2 ans pour 3,6 millions. Danny, dans le cas de Greiss, il s'agissait quand même d'un candidat qui aurait pu être en demande et finalement il est parti la deuxième journée. Alors il va former un duo avec Jonathan Bernier là-bas.
Oui, mais écoute, au niveau du salaire, là, c'est 3,6. Hein? Il n'y a pas beaucoup de monde là, qui était prêt à payer autant d'argent pour un gardien de but qui n'est pas vraiment un numéro un, là, où on va partager le travail à deux. Surtout une organisation comme celle de Détroit qui est en pleine reconstruction. Oui, c'est ça. On ne veut pas trop gaspiller d'argent ou trop dépenser d'argent, pas gaspiller, c'est pas le bon terme. Ça manque de respect à Grice. Je pense que c'est un bon gardien. Ouais. Mais c'est ça, on ne voulait pas s'engager à trop long terme. Je pense que c'est une bonne décision pour tout le monde, là.
Et dans les autres signatures d'aujourd'hui, Nate Thompson, l'ancien du Canadien, un an, 750 000. Il poursuit son aventure maintenant avec les Jets de Winnipeg. Il y a le défenseur Tyson Barrie qui est devenu un mal-aimé au Colorado après de devenir ensuite un mal-aimé à Toronto. Il sera maintenant, je sais pas, j'espère pour lui qu'il ne sera pas un mal-aimé à Edmonton. Il a signé pour un an un salaire qui lui rapportera donc 3,75 millions de dollars. Jordan Greenway, le jeune joueur du Wild, signe un contrat de 2 ans. C'est un agent libre avec restriction. Alors, c'est en gros ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette deuxième journée d'ouverture du marché des joueurs autonomes. Et Kevin LeBanc a signé une prolongation de contrat de 4 ans avec les Sharks. Lui, Danny, c'est un élément important du top 9 des Sharks de San Jose. LeBanc a signé un contrat qui va lui rapporter annuellement 4,7 millions de dollars pour un total de 18,9. Lui, il était agent libre avec restriction. Ceux-là, faut que tu signes aussi. Hein. C'est bien beau partir à la chasse aux agents libres sans restriction, mais faut que tu signes ceux que tu as dans ton équipe.
Faut pas que tu échappes ceux-là. Mais d'ailleurs, il y en a plusieurs qui n'ont pas encore signé.
Ah oui. On va y revenir tard, d'ailleurs.
Hein. On va avoir une discussion là-dessus. Mais permets-moi juste de mentionner que LeBanc a été repêché la même année que Jake Evans. Et tout à l'heure, je vais faire un parallèle parce que LeBanc, ironiquement, c'est un Américain qui a joué dans l'Ouest, qui a joué pour Barry. Et à l'inverse, le Canadien, c'est Jake Evans. Lui, il a joué dans les collèges américains.
Il a joué aux États-Unis, effectivement.
C'est ça. Les deux, c'est des choix tardifs. LeBanc, là, surprenamment, c'est un choix de sixième ronde. Et on le sait, là, Evan, c'est un choix de 7e ronde. Tout à l'heure, je vais faire un exercice pour expliquer un petit peu aux gens. Tu sais, des fois, on dit, ouais, c'est pas pareil, un joueur de la Ligue canadienne versus un joueur des collèges américains. Ouais. Qu'est-ce que les organisations sauvent en termes de sous lorsque on prend le temps ou lorsqu'on prend la décision plutôt d'aller vers du long terme plutôt que du court terme? Alors, je vais parler de ça. Ça a un impact sur le choix des joueurs canadiens et donc des Québécois.
Et voilà. Donc, ça a eu un impact sur le scénario qui est arrivé mardi soir en première ronde, mais surtout le lendemain, mercredi, pour le Canadien. Là. Effectivement. Alors, bien évidemment, on va toucher le dossier du repêchage, on l'a dit. Les perspectives pour le Canadien, puisque Marc Bergevin ne semble pas avoir terminé. Il a laissé sous-entendre que le dossier Taylor Hall est toujours actif. Il y a eu les contrats de Mété et aussi de Ouellet. Aujourd'hui, on y reviendra. On va parler des bons coups de la journée d'hier, des mois bon coup, quels seront les investissements qui seront intéressants pour les équipes et Danny, lors de ton commentaire un peu plus tard dans l'émission, il y a un parallèle intéressant à faire avec ce que vit Henrik Lundqvist qui va poursuivre sa carrière pour un an après avoir été racheté par les Rangers avec les Capitals. Il y a un parallèle à faire avec Price et Weber chez le Canadien qui vivront aussi des situations semblables à celle-là.
On va y revenir tout à l'heure, on va faire encore une fois le jeu des comparaisons, mais sans trop de grossièreté, je pense que c'est des situations, des scénarios qui se ressemblent beaucoup.
Alors, Danny, bien évidemment, le repêchage a fait jaser ici au Québec parce que les gens avaient des attentes. On avait dit que le talent était intéressant, la QV 2020 était bonne au Québec. C'est clair que la pandémie a peut-être changé bien des choses. Ça nous a distancés de ce qu'auraient pu être les séries et la Coupe Memorial dans le junior. Malheureusement, il n'y a rien eu de ça, mais il reste que à la base, on disait que la récolte pour être bonne au Québec. La première ronde s'est terminée avec trois porte-couleurs de la LHJMQ sans que le Canadien puisse sélectionner aucun de ces trois joueurs-là. On a préféré un jeune homme de l'Ouest, le défenseur Goulet, qui a été choisi par le Canadien. On sait que ensuite Lapierre a été sélectionné un peu plus tard par les Capitals de Washington. Bourque a été choisi, lui, par les Stars de Dallas à la fin de la première ronde. Et plus tôt dans cette première ronde, Mercer était le choix des Devils du New Jersey. La veille de la première ronde, j'avais une conversation avec Marc Bergevin qui nous assurait encore, avant le début de la sélection 2020, que le talent québécois était une priorité chez le Canadien. On va écouter ce que disait le directeur général lundi soir, le 5 octobre, avant le repêchage. Marc, il y a aussi des gars de chez nous qui sont disponibles plus que jamais. C'est une bonne cuvée au Québec. Pour le bénéfice des auditeurs, il faut que je les nomme. Lapierre, des gars comme Bourque, Mercer qui joue à Chicoutimi, qui est pas un Québécois, Bourque également qui joue à Shawinigan. On dit que ces gars-là pourraient partir en première ronde. En raison de la qualité, Marc, est-ce que à talent égal,
et au moment où vous allez... M'a t'arrêté tout de suite. C'est malheureusement, il n'y a pas personne qui a le même talent. Il y a toujours quelqu'un qui a une coche en haut de l'autre. Il n'y a pas deux joueurs pareils. Mais je comprends la question. Continue.
Bon, est-ce qu'un gars de chez nous, Marc, au moment où vous parlez, est-ce que c'est encore précieux pour le Canadien? Est-ce que c'est encore important de repêcher un gars de chez nous s'il est disponible et s'il convient à ce que vous cherchez?
100%. 100% avec ça. S'il est disponible, il convient où ce qu'on repêche et on l'aime, comparé à ce qui est disponible, c'est certain que c'est important, très important.
Il y en a-tu un que vous aimez plus que l'autre?
On les aime tous.
Danny, ce qui a soulevé un peu la colère des amateurs au Québec, c'est que le message qu'on vient d'entendre de la part de Marc Bergevin, 24 heures avant le repêchage, qui reconnaît qu'il y a du talent disponible et que le Canadien est intéressé, que c'était important pour le Canadien, le talent local, le message ne va pas du tout avec les actions qui sont posées. Il y a eu cet épisode là de la dernière ronde du repêchage, le 7e choix, 188e au total, où le Canadien a la possibilité de repêcher notamment le jeune Crevier. Si on voulait grossir la défense, le Crevier, 6 pieds, 8 pouces, là, c'est assez gros, merci. Là. Alors, le Canadien se retourne, échange le choix aux Blackhawks de Chicago et les Blackhawks de Chicago utilisent le choix pour sélectionner Crevier. Mm-hmm. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Danny, qu'est-ce que tu en penses par rapport aux messages et aux actions?
Bon, au départ, on va se dire une chose. Là. Moi, je pense que les gens ici au Québec sont prêts à avoir une équipe qui n'est pas nécessairement composée avec des francophones, mais les gens veulent une équipe qui est compétitive, une équipe qui gagne. On est en train de parler de ça, Martin, parce que le Canadien de Montréal ne représente pas une menace dans la Ligue nationale. C'est pas une équipe si compétitive. C'est une équipe dans le milieu du paquet. Donc, à un moment donné, les gens viennent un peu exaspérés d'attendre année après année parce que leur plus récent souvenir de succès était teinté de présence francophone.
Oui.
Alors, on leur a laissé le temps. C'est comme les gens disent, on vous a laissé le temps, là. Vous n'avez repêché un paquet en première ronde qui joue même pas dans la Ligue nationale. Vous avez repêché un paquet de gars en première ronde et en deuxième ronde que vous avez par la suite échangé parce que supposément, ils ne cadraient pas avec votre philosophie. C'est quoi exactement que vous essayez de faire? Fait que tout ça, ça revient en surface, Martin. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une remise en question. La remise en question, c'est pas juste les joueurs francophones. La remise en question, non. C'est la structure, l'attitude et la philosophie de l'organisation par rapport à tout ce qu'ils font, parce que ils sont très, très durs à suivre. Puis après, ben là, on pourra s'amuser à décortiquer des choses à gauche et à droite. On peut parler de la liste, comment on bâtit une liste. On peut regarder leur structure. Mais moi, je sais une chose, c'est que actuellement, la représentativité des gens du Québec, elle est là. Si tu regardes le nombre de recruteurs, il y en a 13, là. Il y en a deux de l'Ontario, il y en a deux de l'Ouest, il y en a deux des États-Unis, il y en a 5 en Europe. Bon, c'est normal, là, parce que
le territoire est assez grand quand même.
Et plus grand, donc il y en a qui viennent de la République tchèque, bon, un Suédois, un Finlandais. Tout ça, c'est tout correct, là, au niveau.
Oui.
Mais c'est quoi l'importance qu'ils prennent lorsqu'on est autour de la table? Est-ce qu'on les écoute vraiment? Et si oui, pourquoi ça paraît pas sur la liste? Si on les écoute, Martin, pourquoi ça ne paraît pas sur la liste?
Oui, parce qu'il a été question de la liste. On s'est réfugié derrière la liste. Trevor Timmons a été bombardé de questions lorsqu'il s'est adressé aux médias à la conclusion de la deuxième ronde, de la septième ronde de repêchage, là, à la fin de la séance. Évidemment, il n'était pas content de la façon dont ça s'était passé. Puis il a dit, écoute, on s'en va là-bas, on suit notre liste. On lui demande, est-ce qu'il y a des Québécois sur ta liste? Ben oui, il y a des Québécois. Il y en a beaucoup de Québécois. Sauf que, visiblement, Danny, ils sont sur la liste, mais quand vient le temps de les sélectionner, ils sont quand même pas premiers sur la liste parce qu'ils ne se font pas sélectionner.
Je vais juste expliquer une chose, Martin, que tu sais, mais que pour les gens qui nous écoutent, là, juste pour aider la compréhension de comment la dynamique autour de la table. La dynamique autour de la table, là, c'est que Shane Sherla, c'est le directeur du recrutement pour le hockey amateur. Donc, c'est lui le boss, il vient de l'Ouest canadien. Le coordonnateur, c'est Ken Morin. Ken Morin, c'est un gars du Québec, là. Il a joué à McGill à l'université, il a travaillé dans l'organisation avant de décider de quitter ce qu'il faisait.
Il a déménagé dans l'Ouest canadien.
Pour aller faire du recrutement. Il était plus dans l'analytique, il faisait des statistiques. Il a décidé, OK, moi, je veux aller vraiment sur le terrain. Et lui a commencé en même temps que Sherla, et maintenant, il est coordonnateur. Donc, les deux personnes les plus influentes...
Après Trevor Timmons.
Après Timmons, ben au niveau des amateurs, les deux là, qui font les listes, qui parlent beaucoup avec les autres, mais qui à la fin vont avoir le dernier mot, c'est Sherla et c'est Ken Morin. Parce que oubliez pas une chose, quand ça arrive le temps de prendre une décision, il faut faire ce qu'on appelle du crossing. Il faut que quelqu'un aille valider ce que l'autre a vu en disant on va aller voir. Mais là, ça veut dire que, par exemple, Sherla va envoyer Morin voir un joueur. Morin va dire, OK, je vais aller voir un tel autre joueur. Donc, lui, il voyage beaucoup, il se promène, pas juste dans l'Ouest, mais un peu partout pour faire ces choses-là. Là, j'ai pas tous les détails, mais c'est comme ça que ça fonctionne, grossièrement. Alors, évidemment, quand ça arrive le temps de prendre une décision, est-ce qu'on met un gars de l'Ouest en avant d'un gars du Québec? Ben là, à un moment donné, tu vas parler... Tu vas aller contre ton patron, là.
Tu vas aller vendre ton choix.
Puis si tu t'obstines jusqu'au point de dire, hey, mettre ton poing sur la table, tout ça, ben, à un moment donné, là, tu vas contre ton patron. T'sais.
Exactement.
Donc, ça prend, je suis pas en train de dire que les gars du Québec le font pas, mais à un moment donné, est-ce qu'ils ont une oreille? Est-ce qu'ils ont une écoute? Est-ce que, justement, on considère ces gars-là au point de dire, OK, parfait. Et là, j'explique rapidement, Martin, puis après, on pourra continuer, mais je pense que c'est important, là. Admettons là qu'on arrive, on dit OK, on dit Hendrix Lapierre. C'est pas un bon exemple, je veux pas donner de nom. OK, on recommence. Le Canadien, je veux pas donner de nom parce que des fois là, tu sais, ça Gouli, c'était un bon choix. C'est juste ça que je veux dire.
Ben il y a pas personne qui Puis là-dessus, Danny, je fais une parenthèse, là, tout le monde a fait ses devoirs, là, je pense, oui. Là, toi, moi y compris, notre
voir,
équipe,
on
Mario.
Oui.
On est allé voir, puis il y a beaucoup de monde du Québec qui aurait pris la même décision. Je ferme la parenthèse, vas-y.
Bon. Donc, le CH, pour donner un exemple, repêche au 20e rang, en premier rond. Il y a un joueur du Québec que les gars du Québec aiment beaucoup. Sur la liste du Canadien, il est classé 26. Alors là, les gars du Québec mettent un petit peu de pression pour le faire monter sur la liste. Là, il y a les discussions, etc., etc. On va dire, OK, c'est correct, je vais regarder ça, je vais le faire monter. Et là, je parle d'une affaire qui est vraiment arrivée. Là, ça arrive à toutes les années, c'est une affaire qui arrive. OK, 26, parfait. Fait qu'on on va le faire monter. On le met 21. Bon, il a donné 5 rangs, là. On l'a fait monter, là.
Ouais.
Pour ça, ça veut dire qu'il y a des gars qui ont descendu, là. Êtes-vous content? OK, merci. Est-ce qu'on va le repêcher? Non.
Pas
parce
plus.
Parce que le Canadien...
Tu repêches 16 ou 18 ou 20 et tu peux pas le repêcher.
Si tu repêches 20, là, je vous garantis qu'entre la 15e et la 20e place, il va y avoir un gars sur ma liste qui va être disponible. Fait que moi, je le sais en le mettant à 21 que politiquement, là, j'ai fait ce que j'avais à faire.
Fait la job.
J'ai montré du respect.
Mais tu le prends pas plus.
Mais je le prends pas.
C'est ça, là. C'est ça l'affaire. C'est là le hic. Puis quand on dit aux gens, ben on suit la liste, c'est bien que tu l'expliques, Danny, parce que la liste, c'est pas tout le monde qui comprend ça. C'est pas juste une liste d'épicerie. Tu travailles pendant plusieurs mois pour bâtir ça. Ça, il y a des gens qui l'ont établi, mais à la fin de la journée, ça prend des convictions. Il y a quelqu'un qui a parlé un peu dans ce sens-là, ce que tu viens d'expliquer cette semaine. C'est Mario Tremblay. Mario Tremblay, c'est un gars du Québec qui a porté fièrement le chandail du Canadien. Voici ce qu'il dit là-dessus.
Si j'étais Jeff, je parle de moi,
oui.
Gérard Bergevin, écoute bien là, Marc, là, peux-tu dire à Trevor Timmons, là, quand vous allez au repêchage, là, ça me prend un ou deux francophones, puis c'est pas tout des pas bons, là. Tu sais, je parle à des dépisteurs, comme je t'ai dit tantôt, puis des Québécois en plus, puis ils en reviennent pas. Je me mets dans la peau de Donald Audette, puis de Serge Boisvert, deux dépisteurs du Québec, OK?
Mm-hmm.
Regardez qui est assis aux côtés du directeur gérant lors du repêchage, ce sont les gars qui sont les plus influents. Du repêchage envers le directeur gérant.
Mm-hmm.
Ils sont assis où, Donald Audette puis Serge Boisvert, eux autres? Mais moi, je sais qu'ils sont assis. Ils sont assis pour pas, ils sont pas trop influents.
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont jouées là, visiblement. C'est l'opinion de Mario Tremblay. Avant de passer à la pause, Danny, parce qu'on va poursuivre un peu notre réflexion et soulever quelque chose, là, une statistique intéressante depuis l'arrivée de quelqu'un qui a été très important, dont tu as parlé tantôt dans l'échiquier des principaux acteurs du repêchage chez le Canadien. Stéphane Leroux, lui, de RDS, qui collabore avec nous, bien sûr, à la couverture du hockey junior, dit « Le Canadien est 0 en 29 ». Dans les quatre premières rondes depuis 2014, statistiques et preuves à l'appui, ça a été vérifié, bien sûr. Et deux joueurs québécois seulement repêchés au cours des cinq derniers repêchages. Voici Stéphane Leroux.
Et puis, sais-tu quoi? Moi, je suis capable de vivre une année avec le Canadien qui n'en prend pas. Là. Deux années, je suis capable. Des fois, tu n'es pas chanceux. Il y en a un qui a été repêché juste avant, au moment où tu t'en allais le prendre. Je crois à tout ça. Moi, là, je le sais comment ça marche. Je suis dans le business. Mais quand ça fait 7 ans... 7 ans que tu es la seule équipe des 31 de la Ligue nationale à ne pas avoir repêché un gars dans les 4 premières rondes de la LHJMQ. Tu sais, moi, il n'y a pas personne qui va me faire croire qu'en 4e ronde, là, quand un Québécois est listé sur la liste du Canadien, 75e, qu'on est obligé de prendre celui absolument qu'on a mis 74, là, parce qu'on sait que c'est des intangibles, qu'on n'est pas capable de prédire hors de tout doute comment les deux vont se débrouiller.
Alors, deux éléments, Danny, au retour des messages pour conclure sur ce dossier-là. On va se rendre compte d'une chose, parce que tu as parlé en ouverture d'émission, que le Canadien, on peut remettre des choses en question pour le repêchage, parce que ça s'est pas bien passé au cours des dernières années. L'équipe actuelle est montée principalement avec des joueurs acquis par transaction. Puis on va également regarder, de façon proprement dit, où le Canadien a sélectionné ses joueurs depuis un tournant important qui est arrivé en 2014. On vous réserve ça à prolongation au retour des messages.
Vous écoutez Prolongation. Prolongation. Avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
On rappelle rapidement aux auditeurs, Danny, que Mike Smith, le gardien, retourne avec les Oilers d'Edmonton. L'ancien du Canadien Nate Thompson s'en va à Winnipeg. Tyson Barrie, un an pour jouer à la défense des Oilers d'Edmonton. C'est essentiellement les signatures d'aujourd'hui. Le gardien de but, Thomas Greiss, est maintenant un Red Wings de Détroit. Dans la deuxième heure de l'émission, on va analyser le marché des joueurs autonomes sans restriction et avec restriction. Un marché où il s'est donné peut-être un peu moins d'argent que dans les années passées, vu bien sûr le contexte économique de la COVID. Danny, on le sait, le Canadien n'est pas une équipe bâtie avec le repêchage. On rappellera que depuis l'ère Bergevin, qui a commencé en 2012, l'équipe du Canadien, lorsqu'elle a joué en série cet été, avait deux joueurs repêchés dans son alignement régulier qui avaient été repêchés avant l'ère Bergevin, c'est-à-dire Brendan Gallagher et Carey Price, qui sont le cœur de l'équipe. Lekkonen, qui est un joueur de soutien, a été repêché au début de l'ère Bergevin en 2013. Et Jesperi Kotkaniemi, qui a passé les derniers mois, la saison régulière dans la Ligue américaine, mais qui a quand même joué de très bonnes séries, est un autre joueur de l'ère Bergevin repêché en 2018 en première ronde.
Il y a Mété aussi,
évidemment, qui était là, qu'on ajoute donc des joueurs repêchés dans l'alignement, Danny, pour les séries, la série contre les Flyers, il y en avait 5. Poehling était un réserviste, Hudon était un réserviste et évidemment Romanov n'était pas en mesure de jouer, faisait partie des Black Aces. Alors, on parle pas d'une équipe qui est basée essentiellement sur le repêchage. Alors, qu'on critique l'organisation pour le fait qu'ils repêchent pas de joueurs québécois, c'est une chose, mais c'est peut-être aussi la résultante que le repêchage du Canadien n'a pas été très riche ces dernières années.
Ben, il y a deux choses, Martin. Je veux quand même être juste avec Trevor Timmons, parce que tu sais, j'ai rien de personnel avec le gars. Si je regarde les résultats, je trouve que à un moment donné, il faut dire ce qu'il y a à dire. Piquet, Subban, Pacioretty, McDonough, Beaulieu, Delarose, oui. Sergachev, c'est tous des gars qui ont repêché ça là.
Oui.
Ça, des gars qui ont été échangés. Ça fait que là, à un moment donné, la main gauche puis la main droite, je sais pas trop comment ça fonctionne dans leur organisation, mais c'est sûr que le fil conducteur, moi, je l'ai pas là.
Oui.
Moi personnellement, je n'ai pas le fil conducteur. Alors, ça, c'est des... Lorsque Trevor Timmons est entre quatre murs avec, on va dire, mettons, M. Molson ou avec, oui. avec Marc Bergevin, peut-être les deux, ben lui, sa revendication, c'est « Hey, moi, je les repêche, là, mais moi, c'est pas moi qui les échange, puis c'est pas moi qui les fais jouer. »
C'est ça.
Toujours ça qu'un dépisteur dit. Alors là, bien sûr, une fois qu'il les a repêchés et qu'il a fait la démonstration que c'est des joueurs de Ligue nationale, parce que toujours ça, « Ah oui, mais ils jouent pas chez nous, mais ils jouent ailleurs. » Donc, ben, ça va, mais moi, là, je veux dire de quoi, quand je vais à l'épicerie, je regarde ce qu'il y a dans le frigidaire avant pour être sûr d'acheter quelque chose que j'ai besoin.
Ben oui.
Et là, c'est un peu ce qui se passe chez le Canadien. C'est comme si on va à l'épicerie, puis on rajoute toujours la même affaire, puis finalement, on n'aime pas ça, fait qu'on s'en débarrasse.
Parce que si les choix rendaient les services qui sont supposés rendre, s'il y avait un pourcentage important de ces choix-là qui rendaient les services qu'on attend d'eux, Danny, un, on n'aurait pas besoin de faire autant de transactions, puis on n'aurait pas besoin de les regretter après ou de penser qu'on n'a pas fait les bons choix, puis de viser le recruteur-chef. Si ce talent-là partait de la source du pipeline, puis arrivait au bout du tuyau, puis que ça rendait les services, puis que ça faisait du Canadien une équipe gagnante et une équipe qui... Ben, absolument. C'est pour ça qu'il faut pas cibler seulement sur les joueurs locaux, parce que l'organisation s'est sentie attaquée dans cette histoire-là. Ben, surtout Trevor Timmons, Marc Bergevin, qui a un petit peu rebalancé tout ça le lendemain, mais il a quand même dit qu'il comprenait son directeur général sur les attaques. Danny, en 2014, il est arrivé quand même un tournant intéressant, puis je veux le mentionner aux gens.
Oui.
À la fin de l'été 2013, Shane Sherlock, qui travaillait avec les Stars de Dallas, se joint à l'organisation du Canadien. Alors, dans la saison qui a suivi, il commence à faire du recrutement. Il deviendra assez rapidement quelqu'un de très influent au sein du groupe de recruteurs. T'en as parlé tantôt. Exactement. Comme on a donné une promotion en 2017 à Trevor Timmons pour l'amener à la haute direction, c'est maintenant Sherlock qui occupe la chaise qu'occupait Trevor Timmons à ce moment-là, c'est-à-dire avant l'arrivée de Shane Sherlock. En 2014, le Canadien a repêché 4 gars de chez nous. Ils ont repêché, en 2013, pardon, ils ont repêché 4 gars de chez nous. Fucale, André Gatteau, Rivaille et Grégoire. Quatre gars qui jouaient dans la LHJMQ. En 2014, il y a eu quand même un tournant important parce qu'après ça, c'est là que la coupure s'est faite. C'est là que le nombre de joueurs de chez nous, de la LHJMQ, ont réduit considérablement. Audette en 2014. Il y a eu Bourque ensuite. Il y a eu Houd en 2018 et Harvey Pinard en 2019. Ce sont les seuls qui ont suivi cette année de 2013 où quatre joueurs de la LHJMQ ont été repêchés. Danny, depuis l'arrivée de Shane Sherlock, en fait, depuis ce tournant qui date du repêchage de 2014, ben le Canadien a pris principalement ses joueurs, 13 au total, dans la USHL ou dans la Ligue préparatoire au Minnesota, où Poehling était notamment. On en a pris 13 dans cette ligue-là. 11 viennent de la Ligue de l'Ouest où est basé Shane Sherlock. Il y en a 9 qui sont des joueurs européens et j'ai inclus les Russes là-dedans. Il y a 9 joueurs qui ont été repêchés en Ontario. Et pour terminer, il y en a 4 seulement qui ont été repêchés dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Et ça, c'est depuis l'encan 2014.
Ben là, ça nous ramène à la dynamique autour de la table. Les deux gars qui sont dans l'Ouest sont les deux têtes dirigeantes. Là.
C'est ça.
C'est sûr que Ken, c'est pas lui qui prend les décisions, mais il est coordonnateur. C'est lui qui, bon, il supporte Sherlock. Ça fait que tout de suite, quand il y a des votes ou tu sais, jusqu'à ça commence à discuter puis à prendre des décisions, ben c'est sûr qu'il va y avoir plus de monde qui vont se placer derrière le patron. C'est toujours un petit peu le réflexe naturel.
Dans toutes les bonnes compagnies, ça arrive souvent de même. Hein?
Si tu veux être sûr de garder ta job, comme dirait l'autre, ouais. Et tu sais, les rôles de recruteur, c'est pas un travail qui est facile à dénicher, puis c'est pas non plus facile à garder. T'es très vulnérable parce que c'est une science non exacte, donc ça rend le travail très, très difficile. T'es fragilisé presque constamment.
Puis quand il y a des changements de patron, directeur général et dans les équipes, là, ces gars-là souvent vont écoper. Ouais. Danny.
Alors, pour revenir à ce que tu disais, puis je veux faire un parallèle puis expliquer ce qui se passe un peu. C'est un phénomène qui est dans la Ligue nationale, c'est pas juste le Canadien de Montréal. Ce qui se passe actuellement, Martin, c'est que les organisations, et ça, c'est des décisions, pardon, du groupe de dépisteurs, c'est de créer un équilibre entre les joueurs qui viennent de la Ligue canadienne et les joueurs qui viennent de l'Europe et des collèges américains.
La Ligue canadienne junior et du reste du monde.
C'est ça. Alors, le Canadien, là, durant cette période que tu as parlé, depuis 2014, a fait 22 choix sur le long terme. Ça veut dire des joueurs européens ou des joueurs de collèges américains ou de ligue préparatoire vers les collèges américains, sachant que ces jeunes-là, Caulfield.
Tu sais, qu'on n'est pas obligé de signer tout de suite, Danny.
C'est ça. Alors, ces gars-là, c'est du long terme, c'est-à-dire que eux, on n'aura pas à négocier de contrat avec eux sur une base de 4 ans. Certains d'entre eux, oui, parce qu'on va les pousser à sortir, comme Poehling, on va les inciter à sortir. Les meilleurs. On est sûr qu'ils vont jouer. C'est ça. Sinon, on les laisse là. Jake Evans est un exemple, je vais y revenir tout à l'heure.
Caulfield doit être un exemple aussi.
Exactement. Donc, la Ligue canadienne de hockey, le Canadien en a repêché 24 au total. Donc, sur les 46 joueurs repêchés, c'est 22 à long terme puis 24 à court terme. Mm-hmm. Sur l'ensemble de l'œuvre, il y a seulement 4 joueurs qui ont été repêchés qui viennent du Québec. Alors, ce que ça dit, c'est que on préconise d'avoir les joueurs qu'on pense qui ont plus de chances de jouer rapidement de la Ligue, qui viennent de la Ligue canadienne. Donc, évidemment, là, on le voit, là, c'est assez évident les chiffres. Ouais. C'est 11 de l'Ouest et 9 de l'Ontario. OK? Et Trevor Timmons vient de l'Ontario aussi. Là. Ça fait que dans les choix de...
Et l'autre patron vient de l'Ouest. Sherlock vient de l'Ouest.
C'est ça. Mais là, tu as deux dépisteurs de l'Ontario dans le groupe amateur, mais il faut aussi que tu calcules le patron qui est dans l'Ontario, c'est un troisième. Fait quand tu es autour de la table, là, il y a des dépisteurs professionnels, tout le monde parle. Là. C'est un groupe qui est quand même assez élargi.
Ouais.
Mais les influents viennent de l'Ouest et de l'Ontario. Il n'y a pas d'influents qui viennent du Québec, là. Oubliez ça.
Malheureusement, non.
Donc, ça explique une certaine portion du phénomène. L'autre chose...
Le phénomène économique, Danny.
Il y a le phénomène économique, Martin. Et ça, le phénomène économique, j'ai essayé de sortir un exemple pour que ce soit plus facile pour les gens qui nous écoutent d'avoir une vision claire de ça. Là, je suis parti en me disant, et si Jake Evans avait joué au Canada? Jake Evans a été repêché en 2014, 207e au total. C'est 7e ronde pour le Canadien de Montréal. OK? C'est un gars de la région de Toronto.
Oui, c'est ça.
Ces chiffres-là, je veux dire, c'était bon, correct. Là, c'est un bon joueur midget, c'est un petit joueur. Bon, c'est un gars comme bien d'autres au Québec. Là. Lui avait décidé qu'il allait au collège dans les collèges américains et jouer à Notre Dame.
Et non dans la Ligue de l'Ontario.
Et non dans la Ligue junior de l'Ontario. Lui, là, il a donc sa première saison, il faut le mentionner, là, en 37 matchs, il a fait 8 buts, OK, dans les collèges américains. Je l'ai comparé avec un gars qui a été repêché presque en même temps, au 6e round, Kevin Labanc, OK?
Qui vient de signer aujourd'hui une prolongation de 4 ans.
Vient de signer aujourd'hui, ouais. Lui, il jouait pour les Colts de Barrie, il a joué là pendant 3 ans. L'année de son contrat, il a fait 31 buts en 68 matchs, il a fait 107 points, Martin. Il a été repêché en 6e round. Lui, donc, l'organisation qui avait, tu sais, c'était quand même en 6e round, là, on a pris une chance, mais on n'avait pas vraiment, je pense pas qu'on avait d'intention. Tu sais, quand tu prends un gars en 6e round, tu t'attends pas qu'il va sortir aussi fort. T'espères, mais tu peux pas dire j'étais certain, sinon tu l'aurais pris avant. Donc, ceci étant, aujourd'hui, je regarde les deux joueurs, il y en a un qui, actuellement, coûte à son équipe, en termes de tu sais, je veux dire, ce qui coûte aux Canadiens de Montréal, c'est 1,5 million. C'est ça, c'est 1,2 million. C'est ça qu'il y a eu en gain. De l'autre côté, LeBanc, lui, il a fait 2,7 millions de gains. Puis là, tu l'as mentionné, il vient de signer un contrat de 18 millions. Ça fait que, dans le fond, là, quand tu prends un gars du Canada, ce que ça veut dire, c'est que ça coûte, si je compare ces deux gars-là, qui étaient à peu près en même temps. Là,
deux choix de fin de repêchage.
C'est ça. Ça a coûté aux Sharks de San Jose 1,5 million de plus pour... 1,2, pardon, million de plus pour avoir le bank dans ton organisation. Ça t'a coûté
pour l'amener à terme. Là.
Pour l'amener à
contribuer.
À la même temps, aujourd'hui, on regarde les deux, puis il y en a un qui ça coûte beaucoup moins cher. Là. Donc, le Canadien a économisé 1,2 million. Là, je regarde ce qu'ils viennent de repêcher dans les collèges américains. Ils ont 5 joueurs.
C'est ça.
Ça fait que ces 5 gars-là, c'est 6,375 millions qui viennent d'économiser sur le long terme.
Alors, la QV 2020, Danny, là, quand elle sera rendue à terme, ceux qui se rendront à terme, parce qu'il y en a qui ne se rendront pas, mais ceux qui vont se rendre...
C'est un exercice mathématique, là, on ne sait pas
à terme, c'est potentiellement 6 millions d'économies en prenant des gars qui viennent de la USHL, l'antichambre des collèges américains.
Voilà. Et donc, il faut certainement pas que les gens oublient ça dans les revendications et tout ça, parce que le Canadien de Montréal est comme toutes les autres organisations. Tout le monde essaie d'équilibrer, parce qu'à un moment donné, tu as un certain nombre de contrats, il faut que tu t'engages financièrement. Après, ça veut dire que ça te prend du personnel, tu dois faire du suivi, etc., etc. Ce qui est beaucoup plus facile quand le gars est d'un collège américain, il est supervisé, il est encadré. C'est le collège américain qui le développe. T'as juste besoin d'aller le voir jouer des matchs. Tu peux pas, t'as pas besoin d'y offrir un contrat.
La seule chose que tu peux faire, c'est l'inviter une semaine dans l'été à ton camp de développement. C'est la seule chose que tu peux faire pour voir où il est rendu par rapport aux autres. Dernier, rapidement, en conclusion, parce qu'on doit aller à la pause. Mm-hmm. Ça veut dire qu'à la table, quand c'est le temps de faire la liste, si les recruteurs du Québec, du Canadien, ont un petit gars de chez nous à pousser, c'est sûr qu'ils se font regarder en disant « T'es-tu sûr? »
Exactement. Puis, et même là, lorsque tu t'en arrives à si c'est pas dans l'ADN de l'organisation, si c'est pas une priorité, ça n'arrivera pas. Parce qu'il va toujours avoir un joueur qu'un va aimer plus que l'autre. Et comme Marc Bergevin a dit tout à l'heure, d'entrée de jeu, dans le premier bloc, il dit, si on l'aime... Si on l'aime, il va être là. C'est ça qu'il dit. Il dit, si on l'aime, il va être sur la liste, puis on va le prendre, s'il est disponible. Visiblement, ils les aiment pas assez.
On va s'arrêter là-dessus Et au retour, nous allons entrer dans le dossier de la transaction majeure qui a été réalisée par le Canadien. Marc Bergevin a fait l'acquisition de l'attaquant Josh Anderson en retour des services de Max Domi cette semaine, juste avant le repêchage amateur. Et bien sûr, Anderson a signé un long contrat, un contrat de 7 ans par la suite, un contrat qui a été questionné, peut-être même à la limite remis en question par certains amateurs sur les médias sociaux. Tout le monde a été un peu surpris de ce qu'on a accordé comme contrat à Anderson. On va en jaser avec Danny au retour. Vous écoutez Prolongation.
De retour à Prolongation avec Martin McGuire et Danny Dubé au 98.5.
Alors, je vous rappelle que le marché des joueurs autonomes s'est ouvert hier et les signatures continuent de rentrer. Danny, André Burakovsky a signé avec l'Avalanche un contrat d'agent libre avec restriction. Contrat 2 ans. C'est un contrat passerelle, finalement, là, qui lui rapportera annuellement 4,9 millions. Total 9,8. C'est un gros contrat, ça, pour Joe Sakic qu'il fallait régler. Frédéric Gaudreau, le Québécois, s'en va à Pittsburgh avec un contrat d'un an pour 700 000 $. Maxime Lagacé, le gardien, également à Pittsburgh. Thomas Greiss est maintenant avec les Red Wings pour 2 ans, 3,6 millions. Craig Smith signe avec les Bruins de Boston un contrat de 3,1 millions de dollars pour 3 saisons. Jordan Greenway avec le Wild du Minnesota. Il y a Tyson Barry qui a signé pour 1 an avec les Oilers. Seulement, mais quand même, 3,75 millions. Nate Thompson, l'ancien du Canadien, 1 an, 750 000 à Winnipeg. Les Oilers n'ont pas le choix. Ils ramènent le gardien Mike Smith pour une autre saison supplémentaire, 2 millions sur la masse salariale. Mark Pizik avec les Stars de Dallas. Kevin LeBanc, un contrat de 4 ans avec les Sharks de San Jose. Louis Domingue vient de signer, Danny. Il sera l'auxiliaire de Jacob Markstrom avec les Flames de Calgary. Domingue, en fait, je dis l'auxiliaire, mais c'est Rittich qui sera l'auxiliaire. Et Domingue devient la police d'assurance. Exact. Signe un contrat de 700 000 avec les Flames, à moins qu'on est en train de regarder à échanger Rittich. Ça, c'est peut-être pas impossible. Donc, ce sont les signatures les plus importantes aujourd'hui. En 2 secondes, je t'en ai parlé, Danny, mais je veux répéter aux auditeurs, pour toute cette histoire de culture, de choix québécois et de choix locaux, de talent local, si vous voulez vous imprégner de quelque chose de pas mal intéressant, il y a un documentaire sportif sur Netflix qui s'appelle Playbook. Et dans une section du documentaire en question, on parle au grand coach de soccer, au coloré, José Mourinho. Monsieur Mourinho est un personnage en soi, mais c'est un gagnant, Danny. Oui. Et quand il a pris l'équipe de FC Porto, il a dit aux dirigeants de l'équipe, là, vous allez me sortir les gars qui sont là, puis vous allez me rentrer un bon petit groupe de joueurs portugais. Je veux des locaux. Des gars de chez nous, mais c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de talent. Je m'en fiche. Je veux des gars de chez nous, parce qu'avec ça, on va remettre l'équipe sur les rails et ces gars-là vont jouer en équipe puis ils vont s'arracher le cœur pour la fierté locale, la fierté de la ville et du pays. Et l'histoire se termine avec un championnat où le FC Porto de José Mourinho, avec ses joueurs marginaux, est allé arracher un championnat au très, très riche Manchester United sur son propre terrain. Allez voir ça. Il y a peut-être une couple de réponses intéressantes là-dedans, même si c'est du soccer. C'est une réalité complètement différente. Exactement. Des convictions. Des convictions, puis partir et travailler selon un modèle et rester fidèle à ce modèle-là. Danny, Josh Anderson, acquis en retour de Max Domi, signe un contrat de 7 ans qui va lui rapporter annuellement 5,5 millions de dollars. Marc Bergevin est pressé par plusieurs questions parce que les gens étaient bien contents de voir Anderson arriver à Montréal. Moi, j'étais de ceux-là. Je pense que c'est une bonne acquisition. Mais on a tous été un peu surpris par la longueur du contrat, 38,5 millions pour 7 ans. Mais c'est un placement intéressant pour le Canadien. Il y a des risques, mais Marc Bergevin semble prêt à les assumer, les risques.
Ben écoute, je vais arrêter d'en parler comme ça, là, mais il assume parce qu'il n'a pas le choix. Son équipe, ses joueurs, il est à la remorque du développement de ses joueurs. Et comme les choix au repêchage tardent à faire leur apparition avec l'équipe du Canadien.
Faut qu'il dépense, puis faut qu'il.
C'est lui qui est obligé de dépenser de l'argent. Et là, regardes, il a mis la masse salariale du Canadien de Montréal, puis je sais qu'on va en parler tout à l'heure, mais juste sur une parenthèse, il reste pas beaucoup de marge de manœuvre à Marc Bergevin à ce point-ci.
3,8 millions.
Et pourtant, il y a plusieurs équipes qui ont eu des fiches comparables à la sienne l'an passé, qui sont beaucoup plus jeunes, qui ont dépensé beaucoup moins d'argent et qui ont beaucoup plus de marge de manœuvre pour travailler dans les prochains mois, les prochaines années.
Alors, l'Avalanche en tête, là.
L'Avalanche, en tout cas, j'en ai une dizaine, là, j'ai sorti, là, qui ont 10 millions et plus encore de marge de manœuvre sur la masse salariale, mais on y reviendra tout à l'heure.
Alors, Danny, bien évidemment, ce contrat-là fait sursauter, mais Anderson, lui, il dit, écoutez, moi, je suis prêt à vivre avec la pression. Je m'en viens dans un marché chaud, un marché de hockey. Je sais que les gens vont attendre des résultats de ma part, mais je me sens bien. L'épaule, semble-t-il, qu'elle est remise à 100%. Le Canadien a eu cette assurance-là sur le plan médical. Là. Ils ont pu voir les données de ce que les spécialistes ont détecté et ont opéré avec Anderson. Pendant qu'à l'autre côté, du côté de Columbus, où Domi a signé un contrat de 2 ans pour 10 millions. Il a envoyé quelques petits cailloux dans la mare du Canadien parce que à un moment donné, Max a dit il n'y a pas de communication pantoute à Montréal. Puis moi, je ne savais jamais sur quel pied danser et tout ça. Puis il a parlé de friction également. Il a sous-entendu qu'il y avait eu des frictions avec Claude Julien. Si on le sait qu'il y a eu des frictions avec Claude Julien, c'est surtout dans son jeu quand l'autre équipe n'avait pas la rondelle. C'est surtout là que, quand venait de parler, le temps de parler de ça, Danny, que Domi a eu des frictions avec ses coachs. Marc Bergevin lui a dit, écoute, on lui a fait part de tout ça, là. Puis il dit, moi, j'accepte pas ce que Domi dit. Domi a mis un petit peu d'eau dans son vin le lendemain sur les médias sociaux. Mais c'est intéressant parce que là, on a deux joueurs qui changent d'air. Anderson est très positif avec un long contrat puis un beau contrat. L'autre, de l'autre côté, est encore un petit peu amer.
Oui, mais tu sais, c'est moi je pense que Max Domi, tu sais, il y a encore le culte de la vedette. Là, il se prend vraiment pour ce qui n'est pas encore devenu. Là, il l'était chez les juniors, sans l'ombre d'un doute, mais il ne l'est pas encore dans la Ligue nationale. Peut-être un jour le deviendra-t-il, mais pour l'instant, ça demeure un joueur qui sous-performe. Alors, et quand ça arrive, ben c'est jamais vraiment sa faute. Là, c'est un petit peu comment je dirais ça? Je dirais pas que c'est un réflexe, là, mais il y a plusieurs joueurs comme ça, ça prend des années avant de finalement dire, sais-tu, là, ça fait 3-4 places qui me disent la même affaire. Ça fait que, faudrait peut-être que je commence à comprendre.
Voici les commentaires de Guillaume Latendresse qui nous parle du plan d'utilisation avec Josh Anderson. Josh Anderson qui a une place probablement à ce salaire-là, en tout cas sur le top 6 du Canadien. Voici ce qu'il disait à Mario Langlois cette semaine.
Pourquoi on fait cette transaction-là pour moi? C'est que le duo, là, ça va être Drouin et Suzuki ensemble. C'est eux autres qui vont créer les jeux, c'est eux autres qui vont être ensemble, qui vont s'occuper de la créativité, d'amener la rondelle dans le territoire offensif, de patiner avec la rondelle. Ce qu'un gars comme Max Domi aimait faire. Max Domi aimait ça prendre la rondelle, aimait ça patiner tout seul, essayer de déjouer des défenseurs. Mais pendant ce temps-là, Drouin a pas la rondelle sur sa palette, puis Suzuki l'a pas sur sa palette non plus. Tandis qu'un gars comme Anderson, ça va être un gros bonhomme qui va aller chercher d'un coin, qui va attaquer le filet, qui va être au gardien, qui va laisser les deux autres travailler. Moi, là, c'est pas compliqué. Anderson, moi, quand je suis arrivé avec le Wild, là, Martin Havlat était là. Personne voulait jouer avec parce que tout le monde voulait la rondelle. Moi, je suis allé voir Martin, j'ai dit, je veux pas la rondelle. En dedans de 10 pieds, tu m'adonnes, sinon, regarde-moi même pas. Fait que c'est ça. Mais Anderson, c'est ce qu'il faut qu'il fasse. Patine la rondelle, attaque le filet, laisse les deux autres être créatifs, laisse les deux autres faire leur travail. Puis c'est là, je pense qu'on va amasser des points puis que le duo Drouin-Suzuki va être très performant. Puis c'est là que le contrat de Anderson, le montant, le nombre d'années, on va l'oublier parce qu'il va être capable de faire le travail. Puis on va avoir un deuxième trio qui va être extrêmement dangereux.
T'as une trentaine de secondes, Danny, pour me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Je crois que la place d'Anderson va être là.
Moi, je suis d'accord avec ce que Guillaume dit. On a parlé d'entrée de jeu. Là, tu te souviens lors de la journée des signatures, des transactions, on a dit hey, ça, cette transaction-là, c'est exactement ce qu'il va amener. Il va aller au filet. C'est pas un gars qui se complique la vie. Il est linéaire, il est gros, il prend de la place. Le Canadien n'a pas de ce genre de joueur-là.
On s'arrête, mesdames, messieurs. On poursuit avec prolongation. Un regard sur les signatures du Canadien et le portrait de la défense, entre autres, avec Danny. Restez là.